Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4. Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez l'émission de La Forêt des Possibles en partenariat avec Ecoforum. Une émission qui est en direct ce soir, le mercredi 2 octobre de 19h à 20h. Après un bel été à se reposer, à se ressourcer, à se régénérer, l'équipe de La Forêt des Possibles est ravie de se retrouver en studio pour une nouvelle saison. Parce que saison après saison, semaine après semaine, nous recevons à notre micro celles et ceux qui font les transitions écologiques et sociales de Marseille et de ses alentours, voire même de toute la France, comme on va pouvoir en parler ce soir. Issus de tous les horizons et de tous les secteurs, nos invités racontent leur parcours, leurs expériences ou encore leurs états d'âme. En découvrant leurs engagements et leurs projets, nous tissons les liens entre les initiatives du territoire. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés, mais ensemble, ils forment une grande forêt qui, chaque jour, s'enracine, pousse, donne du fruit, montre la voie d'une société résiliente, créative et solidaire. Chères auditrices, chers auditeurs, l'émission de La Forêt des Possibles est une grande invitation. Nous pensons que vous aussi, vous avez votre juste place à prendre, du moi au nous et du nous au tout, dans une société qui respecte les besoins humains et les ressources de la planète. À ce micro, nos invités témoignent qu'il est possible de bâtir une cité, une forêt aussi, qui soit collective pour le monde de demain. Je m'appelle Marin Moffret et suis accompagné en studio par Claire Mailloux et Félix Stédelin. Bonsoir.
Bonsoir Marin.
Bonsoir Marin.
Super, on vous entend parfaitement bien. Et en régie, nous avons, en studio, pardon, nous avons Silène et Valentin. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Marin.
Bonsoir Silène.
Bonsoir à tout le monde.
Et je suis ravi que cette fois ça marche parce que c'est la deuxième fois qu'on essaie de faire cet enregistrement. Et donc ce soir, nous allons parler de l'arrivée du Tour Alternativa qui aura lieu en cette fin de semaine et avec pour titre la Cité des Possibles. Merci beaucoup d'être venu en parler à ce micro. Et donc, comme chaque semaine, nous allons pouvoir remonter les échelles d'action pour savoir comment est-ce qu'on arrive à transformer la société, du moi au nous et du nous au tout. Et donc, sans plus attendre, nous allons présenter un peu vos parcours, savoir par quel chemin vous êtes passé, quels ont été vos questionnements et comment est-ce que ces questionnements ont abouti à ce que vous preniez part à la Cité des Possibles. Donc, est-ce qu'il y en a un ou une d'entre vous qui veut commencer pour présenter un peu son cheminement ?
Alors moi, c'est il y a quelques années maintenant, j'étais en thèse en sciences des matériaux, donc pas grand-chose à voir avec le militantisme pour le climat et la justice sociale. Et j'ai commencé à m'investir dans le monde associatif, notamment dans l'association Zéro Déchet, là où j'habitais. Et en fait, il m'est vite apparu que j'avais... Il fallait passer à l'échelle supérieure dans le sens où il faut s'organiser collectivement et réduire ses déchets dans sa propre cuisine ou dans sa propre salle de bain. C'est pas ça qui va changer le monde. Et c'est là que j'ai découvert Alternativa, qui du coup est une association de mobilisation citoyenne et m'a permis de trouver ce que je cherchais, à savoir pouvoir rencontrer des gens qui se posaient les mêmes questions que moi et qui agissaient collectivement pour sensibiliser, mobiliser un maximum de gens et pouvoir changer le système.
D'accord. Et alors, Alternativa, tu as commencé en tant que bénévole et ensuite tu as continué ton cheminement ?
C'est ça. J'étais bénévole Alternativa. Il y a plusieurs groupes locaux en France, autour de 80. Et j'habitais à Tours, donc j'ai commencé dans le groupe local de Tours. Ensuite, j'ai continué à être bénévole dans le groupe local de Grenoble suite à un déménagement. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il y a une offre d'emploi qui a été disponible à Alternativa. Et du coup, là, ça va faire 3 ans que je suis salarié d'Alternativa pour l'équipe d'animation au niveau national, pour du coup faire l'animation du réseau et accompagner les militants qui sont bénévoles dans tous les groupes locaux de France et d'ailleurs.
Animation du réseau dont le point de convergence est Marseille ce soir et on va en parler tout au long de cette soirée. Merci pour cette première mise en bouche, Silène. Valentin, de ton côté, est-ce que tu veux un peu nous présenter ton parcours et les questions que tu as eues ?
Ouais, bien sûr. Alors moi, j'ai plutôt un parcours, je suis plutôt passé par des institutions. Ouais. Initialement, j'ai plutôt travaillé, que ce soit en stage ou en emploi entre Bruxelles et Paris, pour le Parlement européen et pour la Commission européenne. À la Commission, c'était plutôt pour la Direction générale Action Climat. Donc sur toutes les questions climatiques à l'échelle européenne, c'était super, je me suis régalé là-bas, mais je me suis quand même rendu compte que c'était pas à travers ce type de poste-là, en tout cas à mon échelle, que je pouvais avoir un réel impact sur le monde qui m'entoure et sur ce système qu'on veut changer et pas le climat. Et je me suis dit que après cette expérience, je voulais vraiment faire de l'associatif et travailler soit en ONG, soit en asso, pour faire principalement du plaidoyer ou de la mobilisation citoyenne. Là, actuellement, avec Alternatiba Marseille, je suis en service civique. J'ai trouvé cette opportunité et je me suis dit que c'était vraiment génial pour revenir à Marseille et découvrir un peu le tissu ici, qu'est-ce qui se fait au niveau écologie, au niveau social. Alternatiba, je connaissais de longue date, de démarche climat principalement. Et ça m'a semblé assez évident d'investir là-dedans. Et d'autant plus que c'est un super timing parce que l'arrivée du Tour Alternatiba, c'est un sacré événement. Et s'investir là-dedans, c'est beaucoup de fierté. Et parce que vraiment, ça va être un chouette moment. Et on espère vraiment que ça va avoir des impacts positifs sur le territoire, quoi.
Quand tu étais au Parlement, tu travaillais pour des élus ou tu étais parmi des lobbies et des centres d'intérêt pour défendre des causes écologistes ou autres d'ailleurs ?
Pas vraiment l'un et pas vraiment l'autre. J'étais au bureau de liaison du Parlement européen en France. Donc en gros, c'était le bureau qui servait de support de communication et de logistique pour les élus européens français à Paris. Voilà, donc surtout sur des questions de communication principalement.
Je pose la question parce que moi aussi, j'ai une vie dans un monde institutionnel passé et à me rendre compte comme toi qu'à un moment, en fait, ça nous dépasse tellement et puis on se sent comme un tout petit pion dans un gigantesque système et on se dit que si on a envie de transformer le système, il faut transformer les imaginaires, transformer les comportements, avoir une approche qui soit très organique et que c'est pas dans un bureau qu'on arrive à changer les choses ou à embarquer les gens autour de soi. Mmh. Et comme toi, j'avais eu... l'intuition de Marseille, de service civique. Donc en tout cas, c'est un parcours qui me parle beaucoup. Et j'espère que pour celles et ceux qui nous écoutent, vous aussi, vous avez pu vous projeter dans ces deux cheminements qui sont assez complémentaires, entre celui du bénévolat qui ensuite va vers l'emploi, de ton côté avec Silène, et toi, Valentin, du côté... bifurcation et de recherche de sa juste place et pour l'instant en service civique et puis ensuite on verra quelle sera la suite. Et donc vous avez tous les deux parlé d'une grosse programmation parce que ce qui vous invite à être à ce micro ce soir, c'est un très gros événement qui se prépare depuis un long moment, qui s'appelle l'arrivée du Tour Alternatiba, la cité des possibles. Est-ce que vous pouvez le présenter très rapidement, en une phrase chacun.
Ok, je dis une phrase sur le Tour Alternatiba, tu dis une phrase sur la Cité des Possibles.
Allez, dis-le.
Le Tour Alternatiba, c'est une grosse mobilisation citoyenne qui a commencé à Nantes le 2 juin et qui consiste à sillonner la France sur des vélos qui symbolisent l'action collective, c'est des vélos 3 ou 4 places, pour aller de mobilisation en mobilisation. Et tous les soirs, il y a des événements qui sont organisés. Et du coup, ça fait 4 mois qu'on pédale et on a fait 6500 km et on arrive vendredi à Marseille.
Et je vais essayer d'être aussi bref et aussi efficace sur la Cité des Possibles. La Cité des Possibles, donc, c'est le nom de l'événement qu'on a donné à l'arrivée du Tour Alternatiba 2024. Et donc, c'est une célébration déjà de l'arrivée de ce Tour Alternatiba, mais c'est aussi une formidable occasion de transformer le territoire, comme c'était le leitmotiv du Tour Alternatiba en général, et de créer vraiment et d'encourager et de renforcer des synergies qui existent déjà et qui sont encore à créer entre les différentes structures de Marseille qui agissent sur les questions de justice sociale et climatique.
J'entends des enjeux de coopération et des enjeux de territoire. Mettez-les dans un petit bout de votre tête. On aura un débat plus spécifique un peu plus tard dans l'émission sur ces sujets. Mais effectivement, donc c'est cette arrivée-là. Moi, un truc que ça m'évoque, c'est qu'il y a un livre de Alain Damasio qui s'appelle « Les furtifs », qui invite un peu à aller chercher les marges de la société et qui va les chercher partout en France et où la toute fin du livre se trouve par une sorte de révolution qui débute à Marseille. Et je trouve que c'est un peu ce que j'entends, en fait, de façon sous-jacente avec ce cheminement comme ça qui arpente les petits chemins de campagne pour arriver à Marseille comme cité des possibles. Donc je ne sais pas si c'est une source d'inspiration pour vous, mais en tout cas, ce livre, moi, m'a beaucoup parlé et je trouve qu'il témoigne bien ce que vous essayez de faire. Et donc, si tu parles de cet événement, c'est un événement qui, j'imagine, va être, c'est pas j'imagine, je le sais, qui va être marqué par des temps forts. Est-ce que vous pouvez nous présenter le tout premier temps fort ?
Alors, le tout premier temps fort de la Cité des Possibles, il va arriver très très vite, dans quelques jours, le 4 octobre, c'est vendredi. C'est l'arrivée, finalement, à proprement parler, la vraie arrivée du cortège de cyclistes du Tour Alternatiba, qui va arriver à Marseille, comme il a l'habitude de faire entre chaque étape de chaque ville, à travers une Vélorussion. Donc une Vélorussion, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, c'est une masse de cyclistes. Voilà, qui se regroupe, qui fait masse, qui fait masse critique et qui atteint le point de bascule où finalement les cyclistes ne subissent plus le trafic mais deviennent le trafic. Et donc là, on va faire toute une parade à vélo à travers Marseille en partant de l'Après-M, le restaurant solidaire dans le quartier de Sainte-Marthe, qui va partir à 17h30 vendredi pour rejoindre le principal lieu de célébration de la Cité des Possibles, qui sera le square Léon Blum en haut de la Canebière.
Après-M que nous avons reçu à notre micro, si jamais vous souhaitez en savoir plus sur cette structure, c'était l'émission 49, si mes souvenirs sont bons. Et donc une Vélorussion qui arrive et qui arrive aussi pour porter une pétition. Alors c'est pas le seul de ces messages, mais quand on a préparé l'émission, vous m'aviez dit qu'il y avait une pétition que vous vouliez particulièrement mettre en avant. Est-ce que vous voulez peut-être, Silène, me parler de cette pétition ?
C'est une pétition qui est portée à l'initiative de toutes les organisations de toutes les associations qui co-organisent la Cité des Possibles et qui a pour but de demander à la ville de Marseille de mettre en place davantage de démocratie participative et de pouvoir avoir une assemblée citoyenne qui propose, qui soit force de proposition pour accélérer la transition et transformer concrètement le territoire marseillais.
On parle d'enjeux de mobilisation, ça sera notre deuxième thématique de débat après la respiration musicale. Et donc une arrivée des vélos, des pétitions et puis ensuite un fourmillement d'initiatives, un fourmillement de conférences, un fourmillement d'expériences. Est-ce que vous voulez peut-être, on peut faire un tour de table de chacun, chacune qui présente un peu ses coups de cœur, les choses qu'il a particulièrement, il ou elle a envie de présenter et de faire connaître aux auditeurs et aux auditrices.
Oui. Moi, c'est dimanche, du coup, peut-être qu'on peut commencer par samedi si vous avez des choses à dire sur samedi.
Claire, peut-être.
Oui. Alors, justement, pour le samedi, il y a le collectif des FADA, fresques et ateliers déclencheurs d'action, qui vont organiser le grand jeu des possibles, ici même, à la Friche Belle de Mai. Ça sera un peu une fresque géante, où il y aura des fresques et ateliers en tout genre. Fresques du climat, fresques du numérique, biodiversité, alimentation, ateliers d'automne. Atelier inventant nos vies bas carbone, enfin tous les ateliers qui peuvent exister dans l'écosystème marseillais seront représentés à cette occasion et on attend des centaines et des centaines de personnes. Donc voilà, en tant qu'organisatrice, enfin je fais partie des FADA du coup de ce collectif, on avait choisi spécialement la date du 5 octobre pour pouvoir justement profiter de l'émulsion du Tour Alternatiba et de faire vraiment de ce week-end un week-end phare sur les sujets de transition écologique et de justice sociale. Donc voilà, on vous donne rendez-vous le 5 octobre ici à La Friche parmi toute cette programmation très riche. Et d'ailleurs, Marin, peut-être que tu veux compléter sur ce grand jeu des possibles.
Tout à fait, merci de me tendre la perche, Claire. Il se trouve que la Forêt des Possibles, comme elle vous invite à trouver votre juste place, a aussi son atelier qui s'appelle l'atelier de l'arbre et qui vous invite à faire une introspection sur votre écologie intérieure. Où en fait on utilise l'allégorie de l'arbre pour se poser des questions fondamentales sur ce qui se passe dans notre tête, dans notre cœur et dans notre corps. Et par exemple, donc, la sève, ça va être votre niveau d'énergie du jour, les racines, c'est votre milieu, le tronc, c'est comment est-ce que vous arrivez à subvenir à vos besoins, les corps, c'est dont vous protégez. Et donc, en se posant ces questions-là de manière très simple, en fait, on va chercher des questions qui sont hyper profondes. Et c'est un atelier d'écologie populaire parce qu'on a toutes et tous des réponses à apporter à ces questions-là. Et ensuite, tout l'enjeu, c'est qu'une fois qu'on a saisi nos questions, et bien qu'on soit redirigé vers des dynamiques de territoire qui y répondent. Et c'est pour ça qu'on a ces émissions de radio, c'est qu'elles donnent la parole aux acteurs et aux actrices qui proposent des solutions sur le territoire, qui fassent sens pour vous, et en même temps qui soient écologiques et sociales, et donc qui fassent sens pour notre futur. Donc merci pour ce petit clin d'œil, Claire, et je laisse à Silène et Valentin le soin de continuer ce petit tour de table de coup de cœur.
Ouais, et puisque Silène, tu vas parler de dimanche, je vais parler de vendredi. Voilà. On a déjà un petit peu parlé de la Vélorution. La soirée de vendredi s'annonce particulièrement émouvante parce que, comme on l'a dit, c'est l'arrivée des cyclistes qui boucle quand même une petite sortie à vélo de 6500 km. Ça va être très chouette. Et le reste de la soirée de vendredi soir, donc, sur le square Léon Blum, va commencer après l'arrivée de la Révolution par un grand meeting sur l'écologie populaire, des prises de parole des cyclistes qui vont raconter comment s'est déroulé l'ensemble du tour, et une soirée festive à laquelle on tient particulièrement aussi parce qu'on a toute une programmation musicale à prix libre sur cet événement le vendredi, le samedi et le dimanche aussi par ailleurs. Et donc le vendredi, on pourra retrouver Kadour Adadi du groupe Ashkal et Saltimbanque, qui est aussi l'auteur de l'hymne du Tour Alternativa, dont on aura peut-être l'occasion de reparler. Le groupe de musique Y Reggae Party, qui est un super groupe avec des membres de groupes marseillais comme Raspigao et Massila Sound System. Et en groupe local qui nous tient particulièrement à cœur, qui est Pastiche 51, qui fait de super reprises de musique française de façon très engagée et très drôle. Et on trouve que tout ça, ça fait sens et que ce sera une super programmation pour la soirée de vendredi.
Merci beaucoup Valentin. Donc des jeux qui sont proposés, des ateliers par Claire, de la programmation musicale, l'arrivée d'une révolution, j'ai entendu un petit lapsus, Vélorution, révolution, mais on espère que ça sera une vraie révolution. Silène, pour continuer la palette, la panoplie de ce qui est proposé ce week-end-là.
Ouais, je peux parler de deux temps qui me tiennent à cœur dans la programmation militante. C'est une table ronde sur les municipales 2026, parce qu'on est déjà fin 2024, donc c'est une question qui va arriver assez vite. Et autour de ce thème-là, on va se poser la question de comment est-ce qu'on peut transformer nos territoires. On revient toujours à cette question fondamentale. Et pourquoi est-ce que l'échelon communal, municipal est primordial ? Et comment on peut avoir un maximum d'impact sur la transformation de nos territoires ? Est-ce que la meilleure des choses, c'est, on parlait des institutions tout à l'heure, est-ce que il faut rentrer dans ces institutions en se présentant aux élections, ou alors conserver et alimenter un contre-pouvoir citoyen ? C'est un peu autour de ces deux questions que va se dérouler le débat. Et il y a un deuxième, il y a deux autres choses, si je peux rajouter deux autres choses. Dimanche après-midi, il y a une table ronde sur l'écologie décoloniale, parce que c'est aussi une thématique qui nous tient à cœur. Et qui, enfin, parce qu'on parle de justice sociale, c'est pas uniquement en France, mais c'est aussi à l'échelle planétaire. Et il y a beaucoup de choses qui vont de travers et beaucoup de néocolonialisme, y compris autour des questions d'écologie. Et donc on va discuter de ça et de quelle posture il est correct d'adopter vis-à-vis de, enfin, entre monde occidental et le reste du monde qui finalement ne nous appartient pas en fait. Et la dernière chose dont je voudrais parler, c'est le temps final de clôture dimanche à 17h à la grotte Cosquer.
Où là, de 16h.
À partir de 16h, ouais. Merci. À la grotte Cosquer, où là on a invité des élus de la ville de Marseille, de la métropole et de la région. On est encore en attente de certaines réponses de ces intervenants. Il y aura aussi la présence de la Cité des Transitions. Et l'idée, c'est de mettre tous ces gens autour de la table pour parler concrètement de qu'est-ce qu'on fait pour Marseille et comment est-ce qu'on s'organise pour, ensemble, société civile et élus locaux, pour transformer ces territoires. J'y reviens encore, mais c'est vraiment ça le fond de la question, quoi.
Bah, on en parlera après la pause musicale et moi je vais pouvoir aussi rebondir, prendre au bon ce que tu dis. La Cité des Transitions, on les a reçus à la radio et aussi. Et par rapport à ces enjeux de transformation du territoire, la Forêt des Possibles, qui est une des organisations parmi plein d'autres co-organisatrices de cet événement, et je remercie particulièrement vous deux et l'équipe d'Alternativa d'avoir tout piloté. Je sais à quel point c'était un travail minutieux de fourmi que vous ne verrez peut-être pas quand vous allez arriver à l'événement, mais sachez-le, y compris quand il y a des personnes qui gueulent un peu, ce qui a été mon cas. Donc je fais aussi un peu profil bas là-dessus, parce que c'est très bien organisé. Donc il y a pour ce qui me concerne une conférence qui aura lieu sur l'avenir de Marseille au Théâtre de l'Œuvre qui sera samedi à partir de 14h et donc on sera en présence de Wolfgang Kramer et de Jessica, mais j'ai oublié, Crillon.
Ouais.
Pour discuter de l'avenir de cette ville. Et donc, on va partir d'un constat qui n'est pas très réjouissant, mais en même temps, c'est le constat sur lequel il faut qu'on parte pour pouvoir construire des solutions qui sont sûres, pérennes dans le futur. Et ensuite, on cheminera vers des propositions pour faire de cette ville une ville qui soit résiliente, adaptée. Et la proposition de la Forêt des Possibles, c'est de se projeter dans cet imaginaire de forêt pour proposer un écosystème qui à la fois embarque, parce que dans une forêt, il y a des grands arbres, il y a des petits arbustes, il y a des animaux, et en fait, chacun et chacune a sa juste place. Et en même temps, c'est aussi quelque chose qui est très structurant, parce que c'est une organisation en tant que telle, que l'organisation de la forêt, c'est une organisation qui est décentralisée, c'est une organisation qui n'a pas de chef, mais qui a des échanges infinis de connexions dans ses réseaux de mycélium et que la Forêt des Possibles cherche à promouvoir comme façon de pouvoir faire du lien et coopérer, puisque ça fait partie de ces enjeux de transformation. Et donc, voilà, on apportera notre petite pierre à l'édifice de cette conférence-là. Et il y a une deuxième conférence à laquelle on participera, qui sera dimanche matin à la Cité de l'Agriculture, sur justement comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur cette image de l'arbre et cette image de la forêt pour proposer des imaginaires qui sont embarquants. Et un peu la question de savoir est-ce que ça peut être l'imaginaire des imaginaires, c'est-à-dire le tronc commun qui permet ensuite de pouvoir avoir plein d'autres branches qui s'ouvrent sur plein d'imaginaires décoloniaux dont tu parlais, décroissantistes, des imaginaires libertins. Enfin, il y a toute une sorte de... Il y a toute une panoplie infinie. Et l'image de l'arbre est une source d'inspiration pour nous inviter à les tenir. Voilà. Je voyais, Valentin, que tu voulais participer... Enfin,
ouais, rebondir. Juste rebondir là-dessus. C'est vrai que là, donc, on, dans une émission de radio, on ne peut pas parler de tout. C'est impossible, ça durerait des heures. Mais finalement, notre programmation, elle est composée de 34 tables rondes et moments d'échange super divers et variés sur toutes ces questions de justice sociale et écologique. Donc là, on a fait une petite sélection de ce qu'on considère un peu des temps forts, mais voilà, quelles que soient vos envies, vos préoccupations, vos centres d'intérêt, il y a forcément une table ronde qui vous correspond. Et je vous invite vraiment à aller voir en détail le programme sur le site d'Alternativa Marseille.
Et pour compléter à nouveau sur cette très riche programmation, on a oublié de parler du village des associations qui sera dans le bas de la Canebière, je crois que voilà, donc en plein centre-ville, et ce sera toutes les de nombreuses associations marseillaises qui viendront à la rencontre des citoyens, citoyennes. Peut-être que vous pouvez nous en citer quelques-unes ?
Oui, tout à fait. Il y aura à peu près entre 70 et 80 associations. Et collectif sur ce village des associations, village des alternatives comme on l'appelle, parce que l'objectif c'est vraiment de présenter les Marseillaises et les Marseillais qui font vivre des alternatives. Il y aura les membres de la Coorga, il y aura Marseille en transition, les petits débrouillards, la cité des transitions. Il y aura également Eakitaz qui fera un défilé de mode d'éducation populaire sur le village le samedi après-midi sur les discriminations et le racisme. La FNE, France Nature Environnement, Sea Shepherd, L214. Voilà, il y aura il y aura du beau monde.
C'est riche, ça va être très dense comme week-end.
Quelques structures qu'on a d'ailleurs reçues à ce micro pour justement favoriser ce maillage commun. Et donc... on a entendu qu'il y avait des conférences, il y a des ateliers, il y a des concerts, il y a aussi des appels à la contribution. que vous m'aviez invité à pouvoir bien mettre en avant lors de cette émission de radio, parce que peut-être que depuis là où vous nous écoutez, vous dites que vous avez envie de pouvoir participer concrètement. Et à ce que j'ai compris, en fait, il y a deux grandes manières de contribuer. Il y a le fait de pouvoir contribuer physiquement en devenant bénévole, et il y a aussi le fait de pouvoir contribuer via du financement participatif pour pouvoir rendre possible cette grande structure, parce que derrière, ça demande des financements. Peut-être que je peux vous laisser en parler, en glisser deux mots.
Oui, merci. Effectivement, bon, d'abord sur l'aspect financier, en fait, Alternatiba dans son ensemble et Alternatiba Marseille, ainsi que l'éco-orga ici, sont des mouvements citoyens. Et du coup, c'est y a deux choses, en fait. Pourquoi est-ce qu'on demande d'être soutenu financièrement par les gens ? C'est une façon de s'impliquer si on n'a pas le temps de venir filer un coup de main. Et c'est un mouvement citoyen, donc ça paraît logique qu'il soit soutenu par des citoyens, et ça permet aussi au mouvement d'être indépendant et de ne pas dépendre de subventions du bon vouloir de mécènes privés ou de subventions publiques. Donc c'est, voilà, c'est triplement important d'être soutenu par un maximum de personnes. Donc ça, c'est une façon de soutenir l'événement. Et l'autre façon, effectivement, comme t'en parlais, c'est de devenir bénévole. On a besoin de beaucoup de monde pour accueillir les artistes, accueillir les intervenants, orienter les gens, nettoyer les toilettes aussi, parce qu'on a loué des toilettes sèches pour les mettre sur l'espace Léon Blum pour les concerts, et il faudra bien s'y coller aussi, pour servir des bières, pour préparer des crêpes, pour installer le village. Il y a beaucoup beaucoup de choses, et toutes les bonnes volontés sont bienvenues. C'est pas, voilà, qu'on soit en forme physiquement ou pas, il y a des choses qui demandent, enfin, voilà, il y a des tables et des barrières à trimballer, mais il y a de la place pour tout le monde, et on prend toutes les bonnes volontés.
Et on offre à manger.
Et on offre à manger.
J'espère que ce message est entendu. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite respiration musicale. Alors d'habitude, c'est les invités qui proposent leur musique de façon un peu exceptionnelle, et parce que le régisseur en chef, Sidi Diallo, on te salue si tu nous écoutes, n'est pas là parmi nous ce soir. Notre plateforme ne marche pas ce soir. Donc on va mettre la programmation de la radio pour respirer au moins 2 minutes, le temps de pouvoir boire un petit coup, et on se retrouve juste après avec Silène et Valentin qui continueront à nous présenter la Cité des Possibles. Restez avec nous en direct sur la Forêt des Possibles, pour reprendre une terminologie proche, et on se donne rendez-vous juste après.
Pompée et forme ancrée dans les poèmes, ce ne sont pas ces choses qui leur conviennent. On m'a demandé de m'appliquer quand j'ai bien kické. Oh ok, pas de problème. Dans ça lourd jusqu'à ce qu'ils comprennent. Dans ça lourd jusqu'à ce qu'ils comprennent. Ça sera lourd jusqu'à ce qu'ils comprennent. Lourd jusqu'à ce qu'ils comprennent. Comme dans ma lage, je me balade et me promène. Promène, droit au but comme l'OM. Dans les parcs, on débarque man, pas de problème. Dans ça lourd jusqu'à ce qu'ils comprennent. Dans ça lourd jusqu'à ce qu'ils comprennent. Ça sera lourd jusqu'à ce qu'ils comprennent. Lourd jusqu'à ce qu'ils comprennent.
Je viens, tu sais, faut tout défrayer. J'aime pas quand t'es censé, bébé, j'aime quand tu slides. J'aime pas quand t'es censé, bébé, j'aime quand tu slides. J'aime pas quand t'es censé, bébé, j'aime quand tu toquettes.
Vous êtes de retour sur Radio Galère au 88.4. Nous sommes toujours en direct de 19h à 20h dans l'émission de La Forêt des Possibles, qui reçoit ce soir la Cité des Possibles avec Silène et Valentin. Et dans la première partie de l'émission, eh bien, vous nous avez présenté vos parcours. J'ai quelques échos de moi dans mon casque. Et dans la deuxième partie, donc, on va aller plus sur, une fois qu'on est passé de la personne au projet, comment est-ce que les projets participent à transformer la société à leur échelle. Et donc, nous avons deux grands sujets que vous avez commencé déjà un peu à... sur lesquels vous avez posé quelques graines, sur lesquelles on va parler ensemble. C'est comment est-ce qu'on arrive à embarquer des citoyens et pourquoi c'est important que de mobiliser les gens. Ça, c'est la première thématique. Et la deuxième, c'est l'échelle territoriale. Pourquoi s'adresser à cet échelon-là pour participer à la transformation écologique et non pas à d'autres niveaux. Est-ce que ça vous va ?
Oui, carrément.
Super. Eh bien, ce que je vous propose, c'est donc qu'on commence avec notre premier thème qui fait vraiment partie de l'ADN d'Alternatiba, qui est celui de la mobilisation des publics et des publics le plus large possible. Quand on parle d'écologie populaire, souvent on entend populaire comme quartier populaire, mais populaire, ça veut aussi dire tout le monde, y compris celles et ceux qui pourraient ne pas se sentir concernés, parce que sur un sujet comme ça, tout le monde l'est. Silène, je te laisse la parole pour
exactement
compléter.
Ouais. Du coup, Alternatiba, c'est effectivement une association de mobilisation citoyenne. Et là, ce qu'on fait à la Cité des Possibles ce week-end, c'est ce qui a été fait jour après jour depuis 4 mois qu'on est parti de Nantes. C'est mobiliser les citoyens. En fait, le tour Alternatiba, c'est un prétexte, j'ai envie de dire, à l'organisation de mobilisation un peu partout sur les territoires. On est passé par des endroits très ruraux, on est passé aussi par des très grandes villes et on arrive là à Marseille. Et en fait, à chaque fois, il y a une vélorution qui a été organisée, il y a un rassemblement d'associations en village des alternatives qui a été organisé, et il y a aussi des concerts, parce qu'en fait on est là aussi pour militer dans la joie finalement, parce que le constat qu'on fait de l'état actuel du dérèglement climatique et de toutes les injustices auxquelles on fait face, c'est très démoralisant, quoi, voire vraiment déprimant. Et en fait, le fait de se retrouver, de se mettre ensemble, de voir qu'il y a d'autres gens qui sont concernés, de voir qu'on peut toucher de nouveaux publics, bah en fait, tout ça, ça permet aussi de se rassurer et de se soutenir. Et ensemble, on peut transformer, enfin, ensemble, on peut changer les choses. Et du coup, c'est pour ça que ça nous tient à cœur de toucher un maximum de monde et que... Typiquement, j'en reviens à ce week-end, à la Cité des Possibles. La programmation est très variée, on en parlait avant la pause. Il y a une programmation plus militante, il y a une programmation plus festive, il y a une programmation avec des ateliers, il y a des prises de parole, il y a toutes sortes de différentes façons de s'adresser à différents publics pour qu'un maximum de monde puisse s'y retrouver, y trouver un intérêt et se sentir concerné. Et passer à l'action en rejoignant Alternatiba Marseille ou Marseille en Transition ou les autres co-organisateurices à la fin de ce week-end.
Valentin, toi qui es vraiment ancré à Marseille, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi, que ce côté fourmilière pour participer aux mobilisations et à la coopération entre plein d'initiatives différentes?
Ouais, tout à fait. Je pense que c'est absolument central. Et puis, je rejoins évidemment tout ce qu'a dit Silène sur le sujet. Aussi sur la mobilisation citoyenne, je pense qu'il est, aussi question d'agir et de faire agir dans le sens agir parce que les citoyennes et les citoyens se regroupent, se reconnaissent, savent qui ils sont, ils se rencontrent et ils se rendent compte que finalement, ensemble, ils peuvent faire des choses absolument incroyables, très concrètes à l'échelle du quartier ou plus grandes à l'échelle de la ville, et faire agir parce que y a des autorités compétentes, des mairies, des gouvernements, des régions, tout un millefeuille qui agit, qui a plein de compétences. Et la question de l'opinion publique, je pense qu'elle est aussi centrale. Et c'est de moins en moins clair dans ce pays, mais on est toujours en démocratie. Et en démocratie, les dirigeants essayent plus ou moins d'agir en fonction de l'opinion publique. Et donc, si on montre que l'opinion publique, elle est résolument écologiste, qu'elle est mobilisée et qu'elle a conscience de tous ces enjeux-là et qu'elle veut agir, et on fait agir ceux qui ont vraiment les commandes. Et ça aussi, ça fait une grosse différence.
On est dans une radio militante et on a le droit de dire un peu ce qu'on veut. Et c'est sûr que tu disais, on est peut-être encore dans une démocratie, on a le droit de dire deux mots sur la situation du pays où le président de la République a décidé de dissoudre l'Assemblée, la gauche arrive en tête. Finalement, on n'est pas du tout avec un gouvernement qui aujourd'hui va mettre en place des solutions écologiques. Et donc effectivement, c'est important de pouvoir montrer déjà qu'il y a une société civile mobilisée qui n'est pas d'accord, mais aussi de vraiment embarquer tout le monde, parce qu'on y a toutes et tous intérêt à pouvoir continuer à boire de l'eau, à pouvoir manger correctement, à être en sécurité chez soi, et où finalement l'effondrement écologique, l'effondrement de la biodiversité, la raréfaction des ressources, c'est pas une question idéologique, c'est quelque chose qui va nous toucher dans nos cœurs, dans nos corps, et quels que soient nos âges, nos opinions, ou l'endroit où on habite, ça va avoir une incidence immédiate. Donc quand tu disais agir et faire agir, effectivement, il y a un enjeu, enfin ça c'est ma contribution à ce débat, un enjeu à ce que chacun et chacune s'en saisisse et à sa juste place, c'est un peu notre créneau à nous pour le coup, et qui je pense est assez proche du vôtre, parce que c'est simplement faire en sorte que la société puisse continuer à exister dans des conditions de paix.
Et il y a aussi, en parlant du contexte politique actuel, face à la montée qu'on constate de beaucoup d'extrême droite, pas uniquement en France, là aussi, on est nombreuses à être très inquiets vis-à-vis de ce phénomène et à se dire que c'est une raison de plus, en fait, d'aller parler à un maximum de gens, de créer du lien, parce que c'est aussi comme ça que on peut changer les imaginaires, on en parlait tout à l'heure, et du coup aussi questionner certains électeurs d'extrême droite qui votent extrême droite par dépit parce que on voit bien que les gouvernements successifs ne tiennent pas leurs promesses et etc. Et du coup il y a aussi quelque chose à faire là-dessus pour lutter contre l'extrême droite. On l'a pas évoqué dans la programmation militante du week-end, mais il y a deux temps sur justement comment la mobilisation citoyenne et l'écologie populaire permettent de lutter contre l'extrême droite. Ça c'est le premier temps, et un deuxième temps sur comment la démocratie participative permet aussi de lutter contre l'extrême droite. Parce qu'en fait, on se met tous autour de la table, on discute, on donne chacun ses avis, et c'est ça qui permet d'avancer ensemble et pas de se replier sur soi et de promouvoir la haine et le rejet de l'autre.
Surtout, là, moi, je vais parler par expérience. En fait, quand on discute avec des personnes, il y a un tronc commun qui peut rester partagé sur un grand nombre de valeurs fondamentales et où il y a, pour certaines personnes, des cas où il faut démêler des sujets qui peuvent rester bloqués. Où on n'a pas la même perception, mais où finalement, à l'arrivée, on peut se retrouver. Et donc, effectivement, il y a cet enjeu de lutte contre les pour des nouveaux imaginaires, il y a cet enjeu de mobilisation. Et la deuxième grande approche, c'est de dire qu'on prend le sujet via une entrée par les territoires. Est-ce que vous pouvez nous présenter pourquoi, pour vous, c'est un échelon adapté ?
D'abord parce que les maires, les élus communaux, ils sont assez accessibles. Alors dans les grandes métropoles, c'est un peu moins le cas, mais dans les villes plus modestes ou dans des villages, on croise le maire au marché. Enfin, c'est quelqu'un qui est très accessible par rapport à un président de la République. Donc pour aller juste lui parler et lui demander de prendre des mesures et d'agir, c'est plus facile. Et ça fait plusieurs années qu'à Alternatiba, on a une campagne qui est l'équivalent à Marseille, qui est portée par Marseille en transition à Marseille, et qui est du coup une campagne de plaidoyer citoyen pour aller voir les élus communaux et intercommunaux, parce qu'en fait, ils disposent eux-mêmes de leviers d'action déjà très forts sur l'alimentation, les mobilités, le logement, etc. Et en fait, le fait de s'organiser entre citoyens et citoyennes pour aller voir les élus, ça rejoint ce que Valentin disait sur l'opinion publique tout à l'heure. Et ça montre qu'en fait, il y a vraiment une nécessité d'agir et qu'en plus, ça permet des co-bénéfices pour tout le monde derrière, quoi.
Merci beaucoup, Silène. Valentin, ton approche ?
Ouais, non, mais je suis absolument d'accord et je pense que il n'y a pas de mauvaise échelle pour agir. C'est à l'échelle individuelle, à l'échelle des communes, à l'échelle des métropoles, des régions, des gouvernements. Et je pense que les échelles les plus basses, enfin celles des territoires et des gens directement, inspirent les échelles supérieures. Et c'est vraiment comme ça qu'il y a des effets dominos souvent spectaculaires et qu'on assiste vraiment à des transitions ambitieuses, quoi. Puis après, plus techniquement, il y a aussi des questions de compétences. Je veux dire, que ce soit à Marseille ou ailleurs, c'est les métropoles et les communes qui maîtrisent l'aménagement du territoire. C'est les régions qui gèrent les transports, tout ça. Et on a besoin de chaque échelon et de chaque échelon de compétences pour planifier une transition intelligente, planifiée et ambitieuse.
Moi, si je peux participer à ce débat et donner mon avis, celles et ceux qui nous écoutent savent que le slogan de la Forêt des Possibles, c'est accompagner chacun du moi au nous et du nous au tout, donc de pouvoir passer ces rapports d'échelle. Et ce que je trouve intéressant avec l'échelle territoriale, c'est qu'il y a des verrous qui sont vraiment à des niveaux complètement systémiques qui sont très difficile à transformer, y compris pour des dirigeants qui sont parmi les plus haut placés, parce qu'il y a des grands effets d'inertie de système. Et après, à l'échelle individuelle, on peut être parfois assez bloqué, parce que ça nous bloque. Ça nous bloque, je viens de répéter la même chose. On ne peut pas faire tout seul. Ce qui est intéressant avec l'échelle territoriale, c'est que sur des bassins de vie, on a des écosystèmes où on peut répondre à la pluralité de nos besoins fondamentaux, l'accès à l'eau, l'accès à l'alimentation, l'accès au logement, l'accès au transport. Et donc, on peut avoir une approche systémique, mais à un niveau qui reste sur une échelle humaine et où on peut se connaître et donc créer des états de coopération qui peuvent aller plus loin. Et puis, c'est là aussi que se trouvent les ressources. Donc, quand on est sur... maintenant, on parle de plus en plus de biorégions ou de bassins de vie. Quand on est sur un espace qui a sa cohérence interne, on peut organiser des coopérations entre plein d'acteurs différents qui vont chacune prendre leur place pour assurer la survie de ce territoire. Et puis forcément, après, comme tu disais, par effet domino, par effet de mimétisme, ça va avoir des incidences sur les autres. Donc moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça a une transformation de système à une échelle qui reste accessible.
Oui, c'est ça.
Voilà, pour le citoyen, le citoyenne que nous sommes. Et donc la forêt, nous, pour ce qui concerne ça, l'idée, c'est de pouvoir se projeter dans un écosystème comme ça et donc de raconter une histoire en disant quand on forme une forêt, au moins on sait ce que c'est. Et ça permet d'avoir un peu cette espèce d'imbrication continue qui existe entre toutes les espèces comme plein de parties prenantes, mais qui ne sont pas isolées, qui font partie d'un tout et où en fait chacune participe à la robustesse et à la résilience de cet écosystème. Voilà pour ce qui concerne ma contribution. Et ce que je vous propose maintenant, c'est quelque chose que je ne vous avais pas annoncé, parce que ça, c'est souvent la question surprise, et qui n'est pas non plus une surprise qui va vous faire tomber de votre chaise, ne vous en faites pas. Ce que je vous propose, c'est de se projeter en 2050. On a parlé de Marseille, on a parlé des territoires, et j'aimerais que vous puissiez nous raconter à quoi ressemble Marseille en 2050. Donc si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux 2 minutes et Ça, c'est une méthode qui est souvent employée par Arthur Lanterre des 2030 Glorieuses. Et vous projetez dans voilà, le fait que vous avez réussi, le fait que vous ressentez cet état de bonheur d'avoir réussi la transition. Et donc, que vous concentriez d'abord sur les sentiments que vous avez, sur les couleurs qui arrivent autour de vous, sur ce que vous entendez. Et puis ensuite, vous allez prendre un vélo et vous promener. Et vous allez faire attention à ce qu'il y a autour de vous. Et après, on va remonter, revenir tranquillement. Et j'aimerais que vous puissiez nous présenter ce que vous avez ressenti d'abord. Commencer par les émotions. Et puis ensuite, nous décrire à quoi ça ressemble. Est-ce que quelqu'un veut commencer ?
Ouais, bah déjà, super exercice. J'aime beaucoup. Une ville, je pense, qui réussit sa transition et qui est ambitieuse dans sa transition, c'est surtout... Une ville qui fait une transition inclusive, qui laisse personne de côté. C'est pas la transition pour quelques-uns, c'est pas de l'écologie bourgeoise, c'est de l'écologie populaire. Et Marseille en particulier, c'est une ville qui est quand même scindée en deux. Il y a quand même les quartiers sud et les quartiers nord. Et c'est un peu difficile pour beaucoup de personnes juste de se déplacer dans Marseille. La question des transports, elle est absolument fondamentale. Dans notre ville, c'est une des villes en France, une des grandes villes en France où c'est le plus compliqué de se déplacer, que ce soit en voiture, en bus. Et si Marseille réussit sa transition en 2050, ce ne sera plus une ville sclérosée au niveau des transports, ce sera une ville où on pourra efficacement et à travers des moyens décarbonés se déplacer d'un point A à un point B.
Merci Valentin. En fait, un peu ce à quoi la ville de Marseille ressemblait au début du XXe siècle, avec des tramways partout. Il paraît qu'il y avait un tramway toutes les 8 secondes sur la Canebière.
Waouh.
Et ouais. Et ensuite, le maire Gaston Defer, qui est resté en place pendant près de 30 ans, a tout dégagé pour mettre des voitures. Bref. Silène, toi, qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit ? Tu peux présenter Marseille, peut-être que tu peux présenter Grenoble ou un autre territoire.
Bah, je me suis projeté dans Marseille, même si je connais pas très bien, parce qu'effectivement, je viens de Grenoble. Mais j'ai aussi pensé, moi, c'est le bruit qui m'a marqué. Et du coup, ça rejoint les voitures, parce que pour moi, une ville qui a réussi sa transition, c'est une ville apaisée, à la fois au niveau du bruit. Parce qu'il n'y a plus ou très peu de voitures, juste pour des choses vraiment particulières, pour des transports vraiment particuliers. Du coup, beaucoup moins de bruit et puis beaucoup moins de fêtes, de pollution, mais aussi de stress, parce qu'une ville qui a réussi sa transition, c'est aussi une ville apaisée, dans le sens où les gens ont plus de temps. Parce que je pense qu'il y a aussi une transition à faire par rapport à notre rapport au temps qui passe, au travail, etc. Et du coup, c'est une ville apaisée dans tous les sens du terme, avec moins de voitures, ça veut dire moins de bruit, mais ça veut dire aussi plus de place, reprendre plus de place pour avoir des parcs pour les enfants ou des bancs pour se retrouver, pour partager un apéro. Et vraiment, c'est ça, c'est moins de bruit de moteur, mais plus de bruit de gens, quoi, je dirais.
Je rebondis juste sur ce que vient de dire Silène sur le bruit. On ne s'en rend peut-être pas compte quand on est citadin, qu'on vit un peu dans le bouillon de la ville un peu tous les jours, mais c'est un enjeu de santé publique absolument énorme. Mmh. Les questions de stress, de dépression, de qualité de sommeil, etc., qui sont liées au bruit, c'est absolument fondamental et c'est un gros trou dans le budget de la Sécu. Donc des villes apaisées, c'est des villes en meilleure santé. C'est clair.
Ouais, de santé mentale. Moi, je reconnais que les bruits qui m'agressent, j'ai les oreilles hypersensibles, ça me rend fou. Surtout quand on habite à Noailles, c'est-à-dire à un endroit où ça klaxonne dans tous les sens. Donc, je partage ça. J'aimerais pouvoir entendre plus
les oiseaux.
D'oiseaux. Et peut-être même entendre les ruisseaux. On a deux petits ruisseaux à Marseille qui ont longtemps été mis sous des dalles. Notamment les Égalades et après l'Uvaune pour une partie de la place où il est. Donc si on pouvait ressortir les ruisseaux et nous faire entendre son flot, ça serait fantastique. Voilà, on arrive doucement à la fin de l'émission. C'est dommage parce qu'on a commencé un peu en retard à cause de quelques petits soucis techniques, mais c'est la magie du direct sur Radio Galère. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est que la Cité des Possibles arrive à Marseille. Ça commence vendredi 4 octobre avec l'arrivée des cyclistes. Vous avez noté qu'il y a toute une programmation qui est faite de concerts, de conférences, d'ateliers que vous pouvez retrouver sur le site internet d'Alternative à Marseille. Et j'imagine que sur Alternative à tout court, on peut aussi retrouver la programmation.
Sur le site tour.alternativa.eu.
Parfait. Et donc, celles et ceux qui ont envie de mettre de la bonne volonté, vous pouvez être bénévole, vous pouvez aussi participer au financement participatif et puis continuer parce que cette lutte ne fait que commencer. Merci à vous, Silène. Merci. Valentin.
Merci à toi.
Et je vous rends l'antenne et je vous dis à la semaine prochaine pour La Forêt des Possibles. Merci Félix et Claire en régie d'avoir rendu ça possible.
Avec plaisir.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
C'est un garçon qui prend une truelle et qui met du ciment n'importe où et n'importe quoi.
Un gachampègue, c'est un bouillon. Quelqu'un qui ne sait pas travailler, qui a les mains
c'est
comme les pieds.
C'est un mec qui fait tout le travail.
Un gachampègue, c'est un bon.